sérieusement. Vraiment, vraiment sérieusement. Le sujet qu'on va aborder dans les prochaines minutes, il n'est pas le fun. Zéro. Ça ne me tentait pas de vous parler de ça. Parce que j'avais tendance à croire qu'avec les dernières années, avec ce qu'on a vécu sur le plan social, avec des dénonciations, la vague du MeToo notamment en 2017, on était passé un petit peu à d'autres choses. Dans le bon sens, pas dans le sens que je veux plus que les gens dénoncent, au contraire, là, comprenez-moi bien. Dans le sens que je me disais, on n'en apprendra plus vraiment de ces histoires-là parce qu'elles sont pas mal toutes sorties. Peut-être que j'ai été naïf un petit peu.
Tu penses?
Tu penses?
Ben oui.
Ben, c'est peut-être de la naïveté. Ben, c'est fort possiblement de la naïveté. Je me suis dit, écoute, il y a tellement eu un élan de sympathie et d'appui pour les femmes qui ont eu le courage, les victimes qui ont eu le courage de prendre la parole. Puis je dis les femmes, il faut dire les victimes aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été visés par des hommes là-dedans. Mais les victimes ont tellement eu de courage, puis il y a tellement eu une belle vague, puis on a tellement embarqué, puis on a tellement l'impression, et c'est peut-être seulement une impression, que ça existe plus ou moins, je dirais pas plus, disons que ça existe moins, ce genre de comportement-là. J'avais l'impression qu'on avait fait le ménage. J'avais l'impression qu'on avait asséché le marais. Pour prendre une expression du président Donald Trump. Mm. Drain the swamp. Je pensais qu'on l'avait fait. Je pensais qu'on était passé à d'autres choses. Semble que non. Dans les dernières semaines, il y a une vague de dénonciations qui a commencé sur les réseaux sociaux par de jeunes femmes, majoritairement, qui se disent avoir été victimes de plusieurs personnalités publiques. Parmi les personnalités publiques, je vous dirais des vlogueurs. Certains me disent quelque chose. Des blogueurs, des personnalités du web. Donc, des artistes de la scène musicale. J'ai vu passer des guitaristes, claviéristes un peu partout, de tous les horizons, des tatoueurs, des gens qui ont un certain nom dans leur milieu. Et là, une bombe atomique est tombée hier soir, alors que Safia Nolin, la chanteuse bien connue de Québec, a publié sur Instagram via sa story. Story, là, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est comme une espèce d'autobiographie quotidienne. Tu mets des moments de ta vie là-dedans, tu racontes des choses ou des photos, bon... Puis Safia Nolin, la chanteuse de Québec, a écrit sur Instagram dans sa story un témoignage assez troublant.
Oui.
En texte, plusieurs paragraphes sur des rencontres avec une vedette québécoise.
Mm-hmm.
J'en dirai pas plus. C'est une femme. OK, il faut le dire quand même, c'est une femme, là. Mais j'en dirai pas plus parce que je ne nommerai pas personne qui est visé par une seule allégation. Il n'y a personne qui en a parlé dans les médias encore. Si vous voulez fouiller, vous fouillerez. S'il y en a qui veulent le sortir, ils le feront. Ce ne sera pas moi qui vais le faire. Safia Nolin, donc, vise une vedette québécoise féminine. Concernant des allégations de harcèlement sexuel, d'agression physique et de propos vraiment bizarres. Isabelle, je te demanderai de me lire ce que Safia Nolin a écrit comme témoignage sur Instagram hier.
Alors, le texte va comme suit. En mai 2018, dans un bar de Montréal, une des femmes les plus populaires de la TV au Québec m'a assault. J'étais en peine d'amour, j'avais beaucoup maigri. Elle m'a dit que ça m'allait bien. Elle m'a dit qu'elle recevait des messages sur Instagram disant qu'elle ressemblait à mon ex et elle m'a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à 2 pouces de moi et j'étais comme un bloc de glace. Elle m'a demandé mon âge, m'a dit que j'étais jeune et qu'elle pouvait être ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage, qu'elle allait me nourrir, tout cela sur un ton super sexuel et en me caressant les bras. Elle a dit des choses aussi racistes. Elle a dit « Toi, à part être lesbienne, t'es quoi? » J'ai dit « Je suis arabe. » Et elle m'a demandé pourquoi j'étais pas dans un taxi. Elle a aussi dit, en parlant d'un barmaid, attends, il y a des choses que je vais enlever un peu là qui sont...
Ils sont pas chics.
Ouais, c'est ça. Mais elle a aussi dit, en parlant d'un barmaid, la barmaid noire est fâchée parce qu'elle est noire. En tout cas, bon.
Puis une autre affaire, c'est une autre affaire. Aussi. C'est pas chic.
C'est pas nécessaire que je le lise. Mais elle dit, après ça, elle m'a mordu la cuisse tellement fort que j'ai eu un bleu énorme pendant 2 semaines. Et elle montre, elle avait gardé ces photos-là. Donc, elle montre ces photos-là. Puis elle dit surtout, c'est pas parce que la personne en question est une femme et qu'elle mesure 4 pieds 11 que c'est pas du harcèlement sexuel. Ça fait 2 ans que j'essaie de me rentrer ça dans la tête. Ses propos restent du harcèlement, peu importe qui le fait vivre à qui. Fait qu'en gros, c'est ça, le message
et
de Safia.
Et elle nomme Safia Nolin,
a fini en nommant la personne.
Oui, puis voilà. Dis-moi pas que c'est pas sorti, que c'est sorti sur Facebook, on le sait, mais c'est pas une question de ça. Je ne nommerai pas la personne en question. Il pourrait y avoir des poursuites. On ne sait pas si c'est la réalité. Moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute à une victime qui parle sur les médias sociaux. Alors, je prends pour acquis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je pars toujours de même, OK? Parce que 2017, MeToo nous a appris que la plupart du temps, la grande majorité des cas, il y a réellement quelque chose qui s'est passé. On avait déjà fait une entrevue avec Sonia Debelle à l'époque, qui était ministre de la Justice, qui ne l'est plus, mais qui avait dit « Oui, il y a un pourcentage de menteurs. C'est sûr, dans le système de justice, il y en a, mais c'est une minorité. » Alors moi, quand il y a quelqu'un qui va de l'avant. D'abord, ça prend un courage épouvantable que je sais pas si j'aurais. Là. Je sais pas si j'aurais ce courage-là de si j'avais vécu quelque chose de même, de sortir puis d'en parler. Je le sais pas. Je le sais pas, puis je suis pas une femme non plus. Fait que je me prononcerai pas là-dessus. Mais moi, j'ai une admiration sans bande pour les femmes qui ont vécu quelque chose, qui ont vécu une agression ou du harcèlement et qui prennent leur courage à deux mains pour en témoigner.
Le malaise que tout le monde a, que ce soit homme ou femme, c'est le fait, lorsqu'on nomme quelqu'un, parce que là, on parle du cas de Safia Nolin, mais en début de conversation, tu disais qu'il y a toute une autre vague, puis on la voit passer sur les réseaux sociaux, où il y a des listes de gens, on nomme des gens, et la liste est très longue. Là, je lisais ça, puis j'étais comme, il y avait comme une quinzaine de noms de personnes. Alors là, est-ce qu'on on se fait justice nous-mêmes en donnant puis en divulguant tout ça sur les réseaux sociaux? Il faut faire le pour et le contre. Je suis pas en train de dire que c'est pas arrivé, cela dit, mais c'est des fois la manière de le faire. Mais il y a d'un autre côté, je comprends aussi les gens des fois de prendre le chemin des réseaux sociaux en se disant, ben le système de justice vont-ils me croire? Est-ce que j'embarque là-dedans? Est-ce que je m'embarque pour les prochaines années à venir? Et dans toute la vague MeToo, il y a le mot réconfort qui revient très souvent lorsqu'une victime utilise les réseaux sociaux, parce que ça il y a de mettre ces messages-là,
un soulagement
ouais. Par rapport aux réponses des gens. Il y a des gens qui vont être très durs, par exemple à l'endroit de Safia là depuis hier soir, mais il y en a d'autres aussi qui vont dire, sais-tu, je suis dans le même bateau que toi, moi aussi j'ai vécu ça. Et c'est peut-être là la force des réseaux sociaux, où on sent qu'il peut avoir cette vague de solidarité-là pour faire avancer les choses. Mais est-ce que c'est la bonne façon de le faire au départ? J'ai un point d'interrogation.
Je veux t'entendre là-dessus. Je veux vraiment t'entendre davantage là-dessus, parce que quand les victimes témoignent sur les médias sociaux, souvent c'est en indiquant qu'elles ne font plus confiance au système de justice. T'es une femme, t'as une fille, t'as des belles filles. Ça veut pas dire que t'as nécessairement vécu des situations similaires. C'est pas ça que je dis, mais t'es quand même dans ce minding-là.
Ouais.
Je veux t'entendre davantage. Ton point d'interrogation, j'aimerais que tu me l'expliques davantage.
Le problème, c'est que c'est toujours la parole d'une personne contre l'autre dans un événement où personne d'autre y était, ou très peu de gens étaient là habituellement. Tu sais, je fais attention à ce que je dis, mais souvent, c'est ça. Alors là, tu t'en vas, par exemple, tu prends les voies traditionnelles où tu vas aller à la police, tu vas faire une déposition, mais avant que quelque chose se passe, et des fois, tout dépendant qui est cette personne-là, si elle a du pouvoir ou si on peut étouffer l'affaire. On l'a vu des millions de fois, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une série qui sort pas sur Netflix depuis les trois dernières semaines, à chaque trois semaines, il y a des séries sur des gens qui ont fait des choses atroces et qu'on a étouffé ou on a caché tout ce qu'ils faisaient, puis on n'a pas écouté les victimes.
Puis il y a le danger de la poursuite pour diffamation, toujours, là, qu'il faut pas oublier là-dedans. Puis Huertel le note au 25-226, la dénonciation publique a beaucoup d'attention, mais le risque est important aussi.
Exactement.
Le risque est plus important que si tu passes par la police, mais peut-être que la récompense, c'est peut-être mon hypothèse, dis-moi si je suis dans le champ par rapport à ça, là, mais peut-être que, pas la récompense, mais la réparation ou la sensation de réparation obtenue est peut-être plus rapide en passant par les médias sociaux puis par les médias.
Parce que quand tu déposes en plus un nom, on le sait, on est tous des êtres humains, on est tous comme ça, là. Tu mets un nom sur les réseaux sociaux. Advenant que l'histoire ne serait pas vraie. Je parle pas de Safia, là. Je parle d'une histoire X, Mettons que l'histoire ne serait pas vraie. Ben, le nom nous reste en tête. Il y aura toujours un doute. Donc, cette personne-là est entachée pour le reste de sa vie. Alors, c'est là que c'est porteur pour la personne
marqué
qui va mettre.
Marqué au fer rouge, oui, exactement.
C'est marqué pour le reste de ta vie. Alors, il y aura toujours un doute à côté du nom de cette personne-là. C'est dans ce sens-là où la personne qui décide de mettre un texte et décide de nommer une personne, c'est lourd de sens aussi, là.
Ouais, mais c'est épeurant un peu aussi. Puis moi, quand je vois les listes comme ça, puis je suis pas le seul, parce que j'ai des collègues aussi qui m'en ont parlé tantôt, puis qui disaient, je vois la liste là, des gens qui... Puis honnêtement, ça fait peur un petit peu, là. C'est un peu dangereux, là. C'est un petit peu dangereux parce que il y a des gens là-dedans qui sont connus, il y a des gens là-dedans qui ont un nom. Oui, il y en a qui disent, ah oui, ça, il y a une douzaine de témoignages, il y en a 7-8. Des fois, tu as des captures d'écran des témoignages. Tu as une page Instagram présentement qui est suivie par plus de 8000 personnes, qui essentiellement est un peu le balance ton port de 2020. Là.
Okay.
Tu t'en souviens de ça? Tu as oui. Même une tendance sur Twitter présentement, balance ton TikToker.
Ah oui?
Parce qu'apparemment que sur TikTok aussi, ben c'est pas une grande nouvelle. Là. Il y aurait eu des prédateurs aussi le réseau social TikTok qui parle beaucoup aux jeunes notamment. Et t'as cette espèce de d'Instagram-là, de page Instagram qui recense tout ça. Puis là, t'es comme, je connais pas ces gens-là, tout ça, mais tu vois tous les témoignages, puis t'es lis, puis tu sais, À chaque fois, je me demande, puis je le sais là, que oui, il y a tout le temps un pourcentage de menteurs, mais quel est ton gain à nommer un tatoueur, mettons, ou nommer un claviériste de Montréal, ou n'importe qui, là? Tu le nommes, puis t'écris le soir du 6 février, telle année, il est arrivé telle chose, je suis allé chez lui, il a insisté, il m'a. Pourquoi tu ferais ça? Et là, arrivez-moi pas avec, ils veulent juste de l'attention, puis ils veulent juste de l'argent. J'y crois pas, ça. Moi, je ne crois pas, puis moi, si j'ai tort, je ne crois pas que la majorité des gens ont un besoin d'attention à ce point,
non.
Ou de reconnaissance ou de vengeance. Moi, je pense que la majorité des gens sont de bonne foi en général, là.
Et ce qu'on, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Et ces personnes-là me disent tout le temps, je suis hanté un peu par cet événement-là qui est arrivé. Ça me revient tout le temps. Il y en a que c'est plus grave que d'autres, là, je vais mettre ça comme ça. Mais pour elle, c'est même pas bon la phrase que je viens de dire, parce que des fois, l'acte est peut-être moins grave que l'autre, mais c'est tout aussi grave dans sa tête à elle ou dans sa vie. Ça a fait
exact.
Un blocage. Et donc, la personne n'est pas là pour se faire dire « t'es bonne, t'es fine, t'es extraordinaire, puis une chance que tu le fais ». En même temps, c'est sûr que ça donne du réconfort, comme je disais tantôt, et ça fait du bien. Mais si la personne fait ça aussi, c'est que des fois, en tant que dans ce mouvement-là de MeToo, on se dit, ben si je le fais pas maintenant, cette personne-là risque de continuer, puis je veux le faire pour pas que ça se poursuive pour d'autres personnes. Il y a beaucoup de ça aussi.
T'as entièrement raison. On va se faire mal encore plus aujourd'hui. Parce que j'en discutais, puis je vous l'ai dit en ouverture de segment, moi, je m'étais dit, j'avais la belle illusion de me dire que depuis 2017, on avait fait le ménage des mononcles cochons, des gars qui ont pas de classe, des gens qui traitent les filles comme des vulgaires objets sexuels pour être satisfaits par elles. Tu sais, je me disais un peu innocemment, un peu naïvement que c'était terminé. Puis là, j'ai une collègue qui arrive.
Je m'excuse, je vais juste arrêter deux secondes parce qu'on dit tout le temps ça, le mononcle cochon.
Ouais.
Mais des fois, c'est il y a de ça, d'accord. Mais des fois, c'est plus sournois que ça. C'est okay. Pas nécessairement hey, salut, je m'en viens avec mes micros. Puis te dire des phrases qui vont te déranger, puis de taper les fesses, quoi que ce soit. Des fois, c'est juste dans le choix des mots, le choix de l'insistance, de toujours revenir à la charge. Fait que c'est pas toujours l'image du gros cochon là-dedans aussi. Là, tu sais.
Je comprends très bien ce que tu veux. Puis d'ailleurs, la vague MeToo nous a démontré en 2017 que c'était pas juste des physiques de Weinstein qui ont été impliqués là-dedans. Donc, je suis en train de discuter avec ça avec mes collègues. Puis là, j'ai une collègue qui débarque puis qui dit « Hey, c'est parce que moi, j'ai participé à cette vague de dénonciation-là dans les derniers jours. » Puis là, je fais « Ah oui? » Elle dit « Oui, oui. » Je traîne ça sous mon cœur depuis un bout de temps, puis j'ai sorti ça sur Instagram. J'ai pas sorti son nom. Je veux pas donner son nom, tout ça, mais j'ai besoin d'en parler. Puis j'ai dit « Ben, t'es-tu game d'en parler à mon micro? » Elle dit « OK. » C'est Marie-France Poulin, notre collègue Marie-France Poulin, que vous pouvez entendre sur les ondes de notre station Sœur M et que vous avez pu entendre à mes côtés, notamment avec Sylvain Bouchard, parce qu'elle remplace Elisabeth Crête dans Bouchard en parle. Elle a été assez gentille pour et assez courageuse, surtout pour témoigner, pour reconstituer un échange qu'elle a eu pendant plusieurs semaines avec un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qu'on ne nommera pas. On ne nommera pas l'équipe, on ne nommera pas la ville. OK, mais sachez que ça a duré plusieurs semaines. Sachez que dans l'extrait qui suit, vous allez entendre une reconstitution des propos qui se sont tenus entre Marie-France et le joueur en question. Vous allez entendre Marie-France jouer son propre rôle et moi, qui a dû se mordre la langue pour faire ce rôle-là parce que ça me donnait la nausée, mais je l'ai fait pareil. Et on a édulcoré ça de façon incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur les ondes FM et on voulait que ce soit diffusable. Alors, tout ce qui était dégoûtant, vraiment, vraiment dégoûtant, parce que c'est dégoûtant pareil ce que vous allez entendre. Mais je veux dire, les termes, tout ça, là, on est tassé. Mais sachez que c'est mille fois pire que ce que vous allez entendre. On écoute.
Salut, c'est Marie-France. Vous savez, dans les dernières semaines, il y a beaucoup de femmes qui, sur les médias sociaux, ont dénoncé leur agresseur et je fais partie de ces femmes-là. Il y a quelques années de cela, comment je pourrais vous dire ça? Il y a un joueur de la LHJMQ, on n'aimera pas la ville, on n'aimera pas c'est où, qui m'a harcelé sur les réseaux sociaux. Ça a duré plusieurs semaines. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce qu'on a échangé. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous lire les conversations que j'ai eues avec ce joueur de hockey-là. Je vais lire ce que je disais à cet homme. Et Jean-Simon Buis va répondre en tant que joueur de hockey.
J'ai envie de toi. Genre, j'ai envie de t'embrasser partout, de te donner des becs dans le cou. Hey, j'ai plein de réactions physiques.
T'as pas compris que tu parles à une fille en couple qui se fout totalement de tes réactions physiques?
Ben là, la dernière fois que je te parlais de mes boxeurs, tu trouvais ça drôle.
Non, c'était plus un malaise.
OK, bon, ben je vais juste dire que j'ai envie de toi sans parler de mes réactions physiques.
J'ai un chum. Je veux pas avoir ce genre de conversation-là.
Oh, arrête, là, s'il te plaît.
Non, arrête, je suis sérieuse.
Ah, moi, hier, puis tantôt, j'avais encore vraiment envie de toi. Genre, me demande si on peut mourir d'avoir autant envie de quelqu'un. Moi, je veux juste pouvoir me lâcher lousse avec toi, honnêtement. Sois pas rude, là.
Je suis juste direct, c'est tout. Je te l'ai dit l'autre jour, c'est pas le genre de choses à écrire.
Puis je voulais mentionner, on a enlevé beaucoup de mots dégoûtants. OK. Les suites de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Marie-France est allée à la police. Elle a dénoncé. Elle a tenté de faire des démarches. On lui a répondu à un moment donné, après que ça se soit su un petit peu, « Inquiète-toi pas, ça se reproduira pas. Le joueur a été changé. »
Vous écoutez FM 93, ce midi.
N'hésitez pas à réagir au 25226. Je tiens à féliciter Marie-France pour son courage. J'en ai des frissons un peu de ce qu'on vient de vivre en ondes présentement, là, mais n'hésitez pas à commenter au 25226. Je vais tous vous lire sans exception.
D'ailleurs, tantôt, Jean-Simon, tu demandais, est-ce que les gens qui mettaient ces histoires-là sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils voulaient absolument de l'attention? Et je te disais que la réponse, c'est non. Marie-France, lorsqu'elle nous racontait juste son histoire avant d'enregistrer ce que vous venez d'entendre, il y a eu des petits moments où elle a eu de la difficulté à continuer parce que l'émotion lui remontait. Puis elle disait le temps, ben voyons, comment ça, là, je m'excuse, là, j'ai plein d'émotions présentement. Comme quoi, on reste hanté par ces histoires-là beaucoup plus longtemps qu'on pense, puis on ne fait pas ça sur les réseaux sociaux pour avoir de l'attention. Bon enfant.
Tu voulais ajouter quelque chose? Parce que Marie-France est rentrée en studio. Voulais-tu rajouter un petit quelque chose? Ouais.
Ben, comme tu l'as mentionné, on a mis beaucoup de filtres par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça s'est fait sur plusieurs semaines. Puis le genre de choses... je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est prude. Je suis capable de faire des blagues sur beaucoup de choses, mais à un certain moment donné, un non, c'est un non. Et des noms, il y en a eu pas juste un. En studio, précisément, j'ai eu le courage de vous lire quasi l'entièreté. Il en manque encore beaucoup de tout ce qui s'est passé. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse.
Je confirme.
Ce gars-là, j'avais peur de me rendre où je pouvais le croiser parce que je me disais, si il appliquait ce que j'ai reçu, mais dans la vraie vie, ça s'appelle un viol. Mm. C'est aussi simple que ça. Puis je vous avouerai, en fait, moi, ça fait un petit bout que ma journée est terminée, mais je n'étais pas capable de quitter la station parce que je me disais, je veux être là pour ce segment-là. Pas parce que j'avais des doutes sur comment vous allez le livrer en ondes, je savais que vous alliez faire ça de main de maître. Ce qui m'inquiétait, c'était les réactions. Et là, on commence à en avoir déjà au 25226. Et je vais vous expliquer également le pourquoi est-ce qu'on ne parle pas. Et c'est à cause du premier message texte qu'on vient de recevoir qui dit... Voyons, je suis une fille et je trouve qu'il n'y a rien là.
Prends ton temps.
C'est pas vrai qu'il n'y a rien là. Peu importe ce que quelqu'un vous écrit, peu importe quelle est la... Peu importe c'est quoi la grosseur de ce que quelqu'un vous envoie, quand vous dites stop, quand vous dites non, quand vous recevez un non, il n'y a pas plus clair que ça. C'est trois lettres. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Puis c'est pas une affaire de « Hey, je suis une fille, je trouve qu'il y a rien là. Hey, je suis un gars, c'est comme ça qu'on croise. » C'est même pas une affaire de sexe. De sexe, c'est une histoire de consentement. Mm-hmm. Et une fois que la ligne est dépassée, c'est inacceptable.
Parce que pour la personne là, qui t'a envoyé ces messages-là, là, mm-hmm. là t'as dit non. Cette personne-là, pour elle, il y avait peut-être rien là, mm-hmm. mais elle aurait dû avoir des antennes allumées un peu plus pour dire, OK, moi, ça me dérangerait pas de recevoir peut-être ce genre de message-là, mais mm-hmm. elle veut pas. Donc, désolée, j'avais mal compris tes intentions. Salut, bye. C'est fin de la conversation.
Exactement. Puis... Il faut aussi, je pense qu'on a une responsabilité à avoir en tant qu'humain. Et je le répète, c'est pas parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est des hommes, on a une responsabilité, point. C'est correct de se respecter. Je vous souhaite, peu importe où vous en êtes dans votre vie, de vous respecter, de connaître votre valeur. Il n'y a pas de « ouais, mais il n'y a rien là ». Si toi, à un certain moment donné, il y a quelque chose dans lequel tu n'es pas bien, dans lequel tu n'es pas à l'aise, c'est ton plein droit. Et il n'y a personne qui a le droit de t'enlever ça. Il n'y a personne qui est obligé de te forcer à t'amener à un endroit où il veut aller. Mmh. Alors,
Tu as bien fait de le dire, puis tu as bien fait de rester pour venir nous en parler.
Oui, merci Marie-France.
Vraiment.
Je l'apprécie.
Ça fait plaisir.
Fait que continue de réagir au 25226, mais je pense que... Bon, en fait, moi, j'ai absolument rien à rajouter. Je pense que Marie-France a tout expliqué comment vos réactions peuvent affecter les gens qui ont le courage de parler. Midi 23.